Thierry Muller dirige désormais l'ESAT Avenir à Persan dans le Val d'Oise. Un choix professionnel après une carrière dans l'industrie et une certaine expérience dans l'action sociale. Une interview de Pascal Marcacci.
Qu'est-ce que c'est qu'un ESAT?
Un ESAT, ça s'appelle Établissement et Services d'Aide par le Travail. Un établissement médico-social où on accompagne par le travail des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne mon établissement dont je suis le directeur, des personnes en situation de handicap mental. Les personnes ne sont pas des salariés, ont un contrat qu'on appelle un contrat individuel d'aide et de soutien par le travail. On les accompagne au travers d'une activité économique. Elles font un vrai travail qui n'est pas un travail occupationnel. J'en veux pour preuve mon ESAT qui est l'ESAT dont je suis le directeur. Mon ESAT, on se l'approprie, situé dans le Haut-Val d'Oise, dans le 95, qui appartient à une association qui s'appelle La Paix d'Espoir, association de parents. C'est un ESAT d'à peu près 150 travailleurs handicapés, une quarantaine de salariés. Nous avons une cuisine centrale, 350 repas jour. Nous avons une blanchisserie, 600 kilos de linge traités par jour. Nous avons des ateliers de conditionnement. Et donc, nous allons en l'espèce conditionner les coffrets pour Sageco.
Oui, tout ce que vous êtes en train de décrire comme activités qui sont faites, toutes ces activités, en réalité, ce sont des choses qui sont ensuite vendues, c'est pas en interne, bien sûr.
Absolument. Si vous voulez, l'ESAT a vraiment deux pavés. Une activité économique, nous mettons des gens au travail sur des activités où nous avons des clients que nous servons dans le respect de la qualité, des coûts et des délais. Et comme ce sont des personnes qui ont d'énormes fragilités, ce sont des personnes en situation de handicap, nous avons un accompagnement médico-social au travers d'éducateurs, de psychologues, d'infirmières, pour les accompagner dans leur développement personnel et professionnel.
Et donc il y a un lien avec le commerce équitable dans leur production.
Travailler, gagner de l'argent sont des moteurs pour l'être humain. La grande question qui se pose ensuite, c'est comment on répartit cet argent. Dans le commerce équitable, on a cette notion d'équité, d'éthique, d'une juste répartition de l'argent en fonction des mérites de chacun. On retrouve cette logique dans le secteur protégé où l'important c'est bien de gagner de l'argent au travers d'une activité productive, mais l'argent qui est gagné ne va pas à un actionnaire, mais va servir au bien-être des travailleurs au travers d'une rémunération, de création d'événements, d'amélioration des conditions de travail. Voilà, l'homme est au centre de ce dispositif, ce qui fait la grande différence avec l'économie traditionnelle. Et c'est en ce sens que nous sommes proches du commerce équitable, du développement durable. C'est vraiment remettre l'homme, ses valeurs, sa grandeur et l'activité, le travail, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, c'est ce qui fait encore la grandeur et la grandeur de l'homme.
C'est Sageco qui est venu vous voir ou bien c'est vous qui les avez démarchés?
Sageco travaille avec une entreprise d'insertion qui est sur le stockage, qui se trouve à Chambly, et notre ESAT est à Persan. Et Persan-Chambly...
On y va en chaussons.
On y va en chaussons, absolument. Il y a eu un très bon relationnel entre nos équipes. Les gens ont découvert plein de points communs, de valeurs communes, une envie de travailler ensemble. La réalité économique nous ramène sur du très concret. Le fait d'avoir un prestataire qui est à 3 km d'un lieu de stockage fait qu'on peut réagir extrêmement rapidement, que nous pouvons être dynamiques, proactifs et en cas de pépin, immédiatement s'ajuster, se rencontrer, s'ajuster. Il est évident que la proximité des deux sites a été un facteur déterminant. Et bien sûr, au-delà, il y a eu, je pense également, que voilà, la rencontre de ces projets fait naître quelque chose qui sera sans doute une belle aventure.
Oui, parce qu'au bout du compte, tout ça doit tenir la route économiquement. Vous-même, d'ailleurs, de toute façon, Thierry Muller, vous avez bifurqué à un moment donné de votre activité professionnelle, de votre parcours professionnel.
Oui, complètement. Beaucoup de gens qui travaillent en ESAT viennent de ce qu'on appelle du secteur médico-social.
C'est logique.
C'est logique. En ce qui me concerne, j'ai fait une école de commerce et puis après 30 ans dans l'industrie, j'ai 50 ans, j'ai souhaité réorienter ma carrière, donner d'autres valeurs, remettre peut-être l'humain au centre de mon projet. Je dirais que je peux me le permettre facilement parce que pour avoir été cadre supérieur dans l'industrie avec un beau salaire, le médico-social, c'est moins bien payé, mais on y a beaucoup de richesses.
Vous avez eu envie de changer?
Absolument, absolument. C'est quand même été une longue démarche puisque moi je suis engagé en tant que bénévole dans l'accompagnement de personnes en difficulté depuis largement plus de 10 ans. Ça fait une quinzaine d'années maintenant au travers de grandes associations nationales. Je fais de la maraude vers les SDF. Je fais du soutien scolaire, j'ai fait de l'accompagnement de chômeurs.
Vous avez fait ça en plus de votre travail?
Oui, complètement. Donc, il y avait une vraie envie de franchir le pas et de dire, bon, j'ai des compétences de, comment on dit, des compétences de manager. J'ai été directeur marketing, directeur commercial et directeur business development, directeur de la communication. J'ai travaillé dans des grands groupes internationaux. Bon, j'étais vraiment le cadre formaté avec toute la boîte à outils qui va avec. Et puis, j'ai eu envie de mettre ces compétences au service de l'économie sociale. La double logique de l'économique, du réalisme, je dirais la grandeur du projet du travail, Le fait que ce travail est un vrai travail parce qu'il y a une rémunération, parce qu'on gagne de l'argent, et le fait de remettre au travers de l'accompagnement médico-social l'homme, cette personne un peu en difficulté, qui est le travailleur handicapé, au centre du projet, quelque chose qui m'a plu. Et sincèrement, ce que l'on vit tous les jours, que l'on soit moniteur d'atelier, éducateur, responsable d'un service d'accompagnement médico-social, qu'on soit directeur des ASAT, qu'on vit tous les jours dans un ESAT, c'est fabuleux. C'est très riche, certains jours épuisant, mais voilà, c'est une très très belle aventure.
Comment est-ce que vous avez pu bifurquer ? Ça veut dire qu'en France, déjà, on peut changer de voie sans trop de problèmes, ou moins qu'on ne se l'imagine. Comment est-ce que vous avez pu changer de rail ? Vous avez dit au revoir à votre carrière plutôt brillante, non pas que vous en faites une moins brillante, en disant, est-ce que les structures vous ont facilité la chose, ou on trouvait ça normal ? Comment ça s'est passé ?
Ce qui m'a quand même aidé, c'est effectivement un véritable engagement en tant que bénévole dans l'accompagnement de personnes en difficulté. Très souvent, des gens veulent changer de secteur, mais en fait arrive dans l'économie sociale en disant « Bon, peut-être que là, ils voudront de moi. » Ce qui est ridicule, l'économie sociale recrute des professionnels, des spécialistes, des gens compétents. Quand on est directeur d'un établissement, on gère plusieurs millions d'euros par an. Donc on parle d'enjeux financiers quand même significatifs.
C'est l'occasion de rappeler que l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose de sérieux.
C'est pas du bricolage, c'est pas des hippies qui fument le joint. Ce sont des gens professionnels. Moi, j'ai aussi un rôle de gestionnaire de compte d'exploitation, je rends des comptes à l'État, je rends des comptes à mon conseil d'administration, j'ai, comme tout le monde, un tableau de bord, je fais du reporting, j'ai des indicateurs, on bricole pas. On bricole d'autant moins que c'est quand même de l'argent qui vient des fonds publics, sur la partie accompagnement médico-social, donc on doit rendre compte, c'est aussi notre argent en tant que contribuable. Donc non, on ne récolte pas du tout. Alors qu'est-ce qui m'a permis de le faire ? Moi, j'étais engagé dans l'accompagnement depuis de très nombreuses années. C'est quand même des compétences relativement sérieuses. Une bonne formation d'école, une carrière dans des grands groupes. Les compétences de gestionnaire, de businessman, de business developer, de marketeur, d'homme de communication sont primordiales et importantes pour tout l'aspect économique. Donc on peut ensuite acquérir, je dirais, les compétences nécessaires à l'accompagnement des personnes. En sachant que moi, dans ma structure, j'ai des personnes spécialistes et tout à fait compétentes. Psychologue, je suis en fait un patron d'une. Grosso modo, je suis un patron d'une PME très sociale de 200 personnes, voilà, avec des gens compétents qui sont là pour m'aider, je ne peux pas faire tout le boulot tout seul. Mais ce sont des équipes très professionnelles. Alors, il faut quand même savoir que la greffe n'est pas facile. C'est des remises en cause tous les jours.
Oui, quand même, parce qu'il n'y a pas une petite nostalgie.
Non, il n'y a pas de nostalgie. Alors,
c'était bien ce que vous faisiez avant, ça n'empêche pas d'ailleurs.
Ah bah, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai fait du business avec les Indiens, les Iraniens, les Japonais, les Turcs. J'en passe et des meilleurs. Je me suis bien éclaté dans ma carrière professionnelle. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de nostalgie du tout.
Il n'y a pas de comparaison en fait.
C'est une autre vie. J'ai pu aussi me le permettre. N'ayant pas de charge, j'ai pu aussi accepter une baisse de rémunération. Je vous laisse imaginer assez sensible. Mais j'y retrouve des joies et je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Alors c'est vrai que c'est parfois un peu difficile parce que les rythmes sont différents, parce que quand vous parlez à quelqu'un qui vient du médico-social, de tableau de bord, d'indicateur, alors que lui il a toujours mis l'être humain unique au centre de sa pensée, il y a des chocs culturels. J'essaie d'avoir, je sais pas que j'y arrive bien tous les jours, mais j'essaie d'avoir de l'humilité par rapport à ça et de me dire bon, il faut que les deux cultures s'apprivoisent bien et presque une histoire qui serait écrite tous les jours.